Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Après donc l'émission exceptionnelle qu'on vous a présentée tout à l'heure entre 17h30 et entre 17h pardon et 18h30, eh bien c'est l'ADER aujourd'hui, l'ADER en direct, hein, donc également 19h-20h30. Alors après avoir parlé de la journée olympique et de la semaine olympique et d'avoir parlé de boxe française il y a quelques dans l'émission précédente, il y a quelques minutes, aujourd'hui on va finir, allez, un petit peu dans la saison, on va parler de ski nautique. Et puis également du sport chez les chapeurs-pompiers. Puis on aura un tout petit point foot sur un match caritatif donc, qui s'est déroulé hier à Fontenay-sous-Bois. Je vais saluer donc mes invités, sapeurs-pompiers de métier, mais on sait que le sport est particulièrement important chez les sapeurs-pompiers. C'est Jacques et Sébastien. Messieurs, bonsoir. Jacques, bonsoir.
Bonsoir.
Ouais, ça va, pleine forme ?
Impeccable, impeccable. Ouais, bon. Merci de nous accueillir.
Ouais, bah non, c'est un plaisir. Et puis, je veux saluer aussi Sébastien. Bonsoir, Sébastien.
Bonsoir.
Voilà. Alors, première question avant de rentrer. Pourquoi le métier de sapeur-pompier ? C'est une véritable vocation ?
Ouais, tout à fait. Depuis tout petit, depuis l'âge de, je dirais, l'âge de 10 ans, je rêvais toujours d'être sapeur-pompier et particulièrement sur Paris. Et donc, à l'âge de 20 ans, c'est parti. Je suis monté sur Paris.
Et vous êtes voisin, là ?
Tout à fait.
L'association sportive n'est pas loin.
Notre siège de la ZASP, Association sportive et artistique des sapeurs-pompiers de Paris, se trouve dans le 13e.
Voilà, tout à fait. Ça. Sébastien, pareil, même envie, même vocation.
Oui, vocation. Ouais. Mm-hmm. Exactement.
Très bien, je vais saluer Vanessa qui a eu le temps de souffler un tout petit peu. Ça va, Vanessa,
pelle fort. Très bien, Philippe.
Ouais. Tu vas prendre une initiation de ski nautique aujourd'hui. Hein.
Ah, bah oui.
Hein, voilà,
parce que après l'avoir vu sur la Marne, je vais pouvoir m'initier. Ouais.
Parce que je l'ai dit, en plus donc, du sport chez les sapeurs-pompiers, on va prendre un petit peu, ça va nous faire du bien, il fait chaud, ça va nous faire du bien. On va prendre une leçon de ski nautique avec donc nos trois représentants, Flo, Jérôme et Pierre-Nous, qu'on entendra dans la deuxième partie de cette émission. Mais c'est d'abord Flo que je vais saluer. Bonsoir Flo.
Bonsoir.
Ouais, ski nautique donc dans le Val d'Oise, hein.
Section Herblay. C'est ça, Herblay-sur-Seine,
ouais,
exactement.
Herblay-sur-Seine. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais très brièvement, pourquoi vous le ski nautique ?
Une histoire de famille, une histoire de copains qu'on prolonge depuis 35 ans. Mm-hmm. Certains rejoignent un peu l'aventure et puis nous on essaie de la poursuivre tous ensemble dans la bonne humeur. Quand il y a des températures comme ça, on en profite.
D'accord, bon, on va avoir l'occasion de pénétrer dans les coulisses de votre sport comme on aime le faire régulièrement toute la saison. Alors, parlez-moi un petit peu de votre quotidien de sapeur-pompier, parce que le sport y est très important.
Tout à fait,
Jacques.
Tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait. Le sport, c'est un petit peu c'est un petit peu l'ADN de notre de notre métier. Hein.
C'est-à-dire quand on se présente pour être sapeur-pompier à l'examen, il y a fatalement un test sportif.
Tout à fait, tout à fait.
C'est quoi ce test sportif ?
Il y a des sélections qui sont faites dans les départements quand les jeunes recrues veulent intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et donc, ils ont des tests sportifs qui leur sont demandés. Principalement, c'est, il y a la course à pied.
C'est le test Cooper, non ?
Exactement.
Comme on fait à l'armée.
Ouais. Ouais, c'est le Luc Léger, le test navette.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Ouais. Le Cooper, c'est sur les épreuves annuelles.
Oui, je me rappelle, c'était le Cooper quand on était militaire. Hein. Oui, oui. Mmh.
Ouais. Et donc voilà, et ensuite donc quand le candidat passe ses fameuses sélections et ensuite ils sont sélectionnés et ils intègrent la BSPP et ils passent par le centre de formation de notre école qui est à Limeil-Valenton. Où ils font leur classe et ensuite ils apprennent un petit peu, puisqu'on est une entité tout à pas au départ un petit peu militaire, un petit peu beaucoup, mais on fait partie de l'armée du génie. Et ensuite donc ils apprennent le métier de pompier sur une période de 4 mois environ, quoi. D'accord. Et ensuite ils intègrent une caserne.
Mais il faut avoir combien de moyenne?
Il n'y a pas de moyenne. Il y a une moyenne.
Pour savoir qu'on est apte physiquement.
Il faut jamais viser la moyenne, il faut toujours donner le maximum.
Oui.
Donc toujours viser le plus haut possible jusqu'à l'échec. faut vraiment se donner le maximum pour pouvoir atteindre ses objectifs et peut-être réaliser son rêve de rentrer chez les sapeurs-pompiers de Paris.
Et il y a beaucoup de refus, non ? Il y a beaucoup de d'échecs
Non.
Non, 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 dans l'ensemble, ça va.
Après, il y en a effectivement, parce que c'est au fur et à mesure que le temps passe, ou dans les premiers mois, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ce n'est pas leur c'est pas à quoi ils s'attendaient. Mais après, la plupart du temps, les gens, comme sont quand même les jeunes, sont bien motivés et je dirais, ils restent dans l'institution et ensuite poursuivent leur carrière.
Alors, c'est quoi la carrière ? Ça dure combien de temps ? C'est comme un sportif de niveau ?
Pour ma part, 33 ans.
C'est bien.
33 ans de boutique, ouais, tout à fait. Ouais.
Ouais, c'est bien.
Et après, Sébastien.
Moi, je suis à 16 ans et demi de carrière. Et après, c'est soit on fait une carrière dite courte chez nous qui nous amène jusqu'à 19 ans et demi.
Oui. Voilà. D'accord.
Soit après, on fait la carrière longue comme Jacques.
Et on va au bout, c'est Gadier.
Qui va aller jusqu'à la limite d'âge.
30, 40. Ouais, ouais, c'est quoi la limite d'âge
En fait, une limite d'âge se situe par rapport à un grade, en fait, chez nous.
Oui.
Tout dépend le grade que l'on a, adjudant-chef, major, etc. Me concernant, en l'occurrence, adjudant-chef, ma limite d'âge, c'est 58 ans.
D'accord.
Donc, okay. Ensuite, ça, c'est un règlement et c'est comme dans toutes les armées. Là, je dirais, on n'y échappe pas. Au-delà de cette limite, voilà.
Et après, c'est fini, vous êtes en retraite, vous avez le droit de,
alors après,
de reprendre une activité.
Je veux dire, on peut reprendre une activité, oui. Comme on l'entend. Quoi. Oui. Mais effectivement, l'institution et les règlements font qu'au niveau de l'armée, on a une limite d'âge en fonction du grade.
D'accord. Alors, pour le grand public, vous êtes officiellement militaire ou pas ?
Oui, tout à fait.
Oui, voilà,
tout à fait. Tout à fait. On est une entité militaire, tout à fait, sous les ordres du préfet de police. Mais on est avant tout une entité militaire. On fait partie de l'armée du génie, tout à fait.
D'accord. Avec un journaliste qu'on connaît bien, qui est au ministère de l'Intérieur, qui est un petit peu votre N plus, je ne sais pas combien, 5 ou 6, Pierre-Henri Brondet, qu'on salue. Voilà. Alors, parlez-moi un petit peu de comment le sport existe dans votre, dans votre quotidien. Vous faites la pratique du sport, mais vous pouvez aussi le prolonger à travers donc, différentes associations.
Bah, effectivement, tout à fait. On a une association qui s'appelle l'Association sportive et artistique des sapeurs-pompiers de Paris, qui se situe donc dans le 13e, à la caserne de Masséna, la grosse caserne, une des grosses casernes de Paris. Et en fait, c'est une association loi 1901. Et qui regroupe différentes activités sportives. On a au total aujourd'hui on a 27 activités. Alors on a du foot, du rugby, du cyclisme. Donc je
et
suis
ça se passe président. Comment on propose une activité, on dit alors, tiens en fait, je veux monter une activité
voilà,
sportive.
En fait c'est effectivement tout à fait c'est le sapeur-pompier qui fait une candidature entre guillemets. Sébastien a fait sa candidature lui pour monter sa section de CrossFit l'an dernier. Effectivement, il se présente, il dit voilà, bah, tiens, moi je veux monter ma section qui sera donc tel sport, telles ambitions, mon règlement en fait, mon petit règlement intérieur et sur quoi je veux partir quoi. Et puis après ensuite on a un petit dans chaque section pardon on a un président et un trésorier en interne et ensuite chaque section règle son programme, son timing, ses compétitions, ses participations aux manifestations diverses et variées, un petit peu comme il l'entend quoi. Bien entendu en ayant au-dessus toujours sous tutelle de la maison mère de la ZASP.
Oui.
Qui elle gère vraiment l'ensemble de ses entités.
Ça se passe comment au niveau fédération ? Quelle licence prend-on ?
Ouais, on fait partie de la FCD, Fédération des clubs de la défense.
D'accord. Voilà. Ah oui.
Comment dire ? Donc en fait, dans tous les corps d'armée, il y a une association. Alors chez nous, ça s'appelle la ZASP, mais dans les différents corps d'armée, il y a des associations pareilles sportives comme ça et qui font partie de la FCD. Et qui y sont rattachés. Et donc chaque régiment, chaque entité militaire a son CSA qu'ils appellent. Et dont nous, en l'occurrence, la ZASP. Et ensuite, on se débrouille, entre guillemets, en interne. La ZASP gère ses différentes sections. On a un budget qui nous est attribué, une organisation, règlement intérieur, des statuts, etc. Et ensuite, chaque section, comme je le disais, Sébastien, moi en l'occurrence, on gère et on règle et on organise nos activités. Alors, des activités aussi bien cohésion. Alors, la cohésion est beaucoup, chez les pompiers, dans les activités qu'on fait.
Hein,
tout à fait. La cohésion est importante. Et ensuite, aussi bien des manifestations, des championnats, qui soient des championnats militaires, des championnats dans le civil. Et on organise ça et un petit peu partout en France, voire à l'étranger pour certaines manifestations.
Oui, parce que vous avez le droit de participer à des compétitions civiles. Il n'y a pas besoin de prendre aussi une double licence.
Non, tout à fait. On est, moi, en l'occurrence, j'ai des gars qui sont partis à Sauternes il y a 15 jours là, pour faire les championnats France sapeurs-pompiers, cyclisme, contre la montre et course en ligne.
Donc vous ne prenez pas de licence FFC, non.
Alors après, il y en a qui peuvent adhérer ensuite, prennent une licence complémentaire FFC.
Et ça vous
FFC.
Donne quoi comme avantage
Après, les licences FFC, vous avez des, je dirais, des certaines, on va dire, des rabais sur certaines inscriptions, à des manifestations, des choses comme ça. Mais par défaut, nous, en interne, déjà, on a tout ce qu'il faut, je dirais, pour avoir les assurances et puis tout ce qui puisse nous couvrir en cas de problème et ensuite participer à d'autres manifestations.
Bon, quel est le sport le plus pratiqué dans votre association?
La section qui a le plus d'adhérents, c'est le football.
Elle fout, toi. Ça change rien.
Ça change pas.
Ouais, ouais. On sait à peu près le nombre d'adhérents.
J'ai regardé ce matin, je crois qu'ils sont 300.
Alors il y a le.
Il y a le foot en premier, et après, en deux, il y a la course à pied et la musculation en trois.
Musculation aussi, qui sont. À Masséna, là, donc à la caserne, il y a une grande salle de musculation où les adhérents peuvent faire leur séance. La course à pied, qui est effectivement. C'est pareil, c'est un de nos sports. Exactement. Parmi nos sports, un petit peu de. Qui sont de prédilection et où en général le pompier de Paris est attaché, attendu. Effectivement, il y a la course à pied, la natation, la gymnastique et le grimper de corde et un petit peu le muscu. Et donc, la course à pied est quand même un grand sport chez nous. Et effectivement, au niveau de la ZASP, il y a un certain nombre d'adhérents assez importants au niveau de cette section-là. Et la natation aussi, la plongée. Natation, la baignade, qui est assez importante aussi. Ouais.
Alors Sébastien, quels sont les autres sports qu'on peut faire en dehors du foot? Dites-nous toutes les activités.
Il y en a énormément.
Il y a
le judo, le karaté, il y a le basket, il y a le hand.
Le volley, je suppose.
Il y a le volley.
Badminton, tennis, non?
Non, il n'y a pas badminton, pas tennis.
Ah ouais?
Non.
Ah ouais, d'accord.
Non. Pétanque. Non, pourtant, badminton est très pratiqué dans les armées. Pétanque.
Il n'y a pas le clinotique, non?
Non, on en parlait justement. C'est une idée. On va proposer.
Et pourquoi la dénomination sportive et artistique dans votre dénomination?
L'association, elle a été créée en 1972.
C'est la patineuse qui parle.
En fait, il y a un petit peu toutes les activités sportives. Il y a de la Zumba aussi.
Il y avait de la gymnastique pour enfants.
Il
y avait de la gymnastique pour enfants à une époque.
Il y a de l'apprentissage pour les enfants, pour les petits, au niveau de la piscine.
Du coup, les enfants
La ZASP, c'est accessible au personnel civil sous certaines sections, aux militaires, aux réservistes, aux policiers, aux conjoints. Donc, c'est comme l'association est quand même ouverte à beaucoup de personnes. Et c'est pareil, c'est la section qui choisit de l'ouvrir à tel ou tel public.
D'accord, voilà. Et puis, il y a des femmes aussi.
Bien sûr.
Il faut aussi des sports un petit peu féminins.
Tous les sports sont féminins.
Est-ce que vous avez, par exemple, une section de ski?
Il y a une jeune fille qui est en pleine préparation et qui, je dirais, qui monte en puissance. Qui se prépare, son rêve c'est de participer aux Jeux Paralympiques de 2030. Son handicap c'est la malvoyance effectivement avec son représentant de section lieutenant-colonel Chislard et qui lui effectivement le qui est moniteur et qui lui l'entraîne et essaye de la projeter au plus haut possible. Et elle se prépare effectivement pour les on, l'espère, pour les Jeux paralympiques de 2030. Quoi. Mais effectivement, l'handisport aussi, on essaye un petit peu aussi de le, effectivement de le prendre en compte, parce qu'effectivement, c'est important, c'est important de ce côté-là aussi, d'avoir des, de pouvoir faire participer des jeunes en situation de
Et justement, handicap. Vous avez beaucoup d'exemples de sportives ou sportifs de haut niveau qui sont sapeurs-pompiers, parce qu'on en parle dans certains sports comme les douaniers, par exemple, les douanes pour le biathlon. Est-ce que vous avez vu des exemples, pas forcément dans le 13e hein?
Un ancien pompier de Paris.
Quelqu'un qui pourrait, qui aurait un statut un petit peu particulier, non? Non,
non, ça me vient pas. J'ai pas de souvenir de personnes qui auraient pu percer, je dirais.
Non.
On a quelqu'un qui a participé, par exemple, aux Jeux Olympiques de Londres en plongeon.
En plongeon. Oui. Ouais, voilà.
Voilà. Mm-hmm. Faut que ça revienne.
On va vous dire pour les Jeux Olympiques de Paris, il y avait la. Il s'est construit une caserne, la caserne de Glane, en bord de Seine, à côté du village olympique. Mmh. Et de Glane était un ancien athlète au JO de Paris de 1924.
D'accord.
Donc
d'accord.
100 ans après. Ouais. Effectivement. Voilà. Et la caserne porte ouais. son nom. Effectivement, c'était un ancien.
Mmh. Oui. D'accord.
Athlète. Oui. Hétérophilie, je crois, quelque chose d'accord, comme ça. Voilà, d'accord. Tout à fait.
Mais... Alors, Jacques, pourquoi le vélo, vous ? C'est votre sport depuis très longtemps ?
Non, j'étais footballeur. Enfin, footballeur. Ah ouais. J'aimais,
sport
le foot,
de
j'aimais le foot.
Bah, c'est bon, c'est...
J'aimais
on
courir
deux,
aussi.
Souvent.
Parce que comme genre on dit, c'est assez... Là, courir, c'est quand même assez...
C'est le sport socle.
Oui, c'est le socle chez nous, ouais. Tout à fait. Et puis le vélo, qui m'est venu dans les années 2020... En ayant participé à des cyclos sportives qui n'existe plus en l'occurrence le Vallon Fleur maintenant qui est passé sur Paris-le-Crotoy mais effectivement et petit à petit voilà c'est quelque chose qui s'est développé j'ai été piqué c'est quelque chose qui s'est développé et puis que j'apprécie cet esprit de c'est un sport individuel mais c'est un sport à la fois
collectif
ouais, tout à fait ouais. Et puis animer et puis participer à des et organiser des sorties, des championnats, des journées cohésion, des week-ends cohésion avec une bande de potes, c'est le cas de le dire. Mm-hmm. Faire plaisir et puis voilà, essayer de mettre une certaine dynamique dans l'association en l'occurrence et puis après dans le cyclisme.
Et vous êtes beaucoup dans votre section là ?
On est cette année la saison. Alors les saisons nous se déroulent comme une année scolaire, septembre à fin août. Donc là, elle se termine. Et dans notre section,
ah, c'est pas une saison classique, mars-octobre.
Non.
Ah, d'accord.
Non, nous, c'est une année scolaire.
D'accord.
Et on était une petite trentaine, on était 27 exactement. Et à la ZASP, à l'association en général, enfin en général, dans sa globalité, il y a environ 1600 adhérents.
Mm-hmm. Et voilà. Vous participez à quelle course entre vous entre Interarmes, sapeurs-pompiers
tout à fait.
Dans d'autres
tout à
dans
fait
d'autres
Interarmes
villes,
donc championnat de France militaire VTT ou course sur route et championnat de France Paris sapeurs-pompiers qui ont lieu course en ligne voilà tout à fait donc les différences 10 ouais. et avec BSPP BMPM nos homologues de Marseille et Monaco voilà donc c'est un regroupement cette année qui avait lieu à Sauternes, dans le 33,
il y a
15 jours, début juin.
Vous arrivez à bien vous entraîner quand même avec votre emploi du temps, les autres...
Oui, tout à fait. Les week-ends ou certains créneaux de sport qui nous sont attribués, et puis les week-ends, effectivement, quand arrivent les beaux jours comme ça, il y a toujours une période un petit peu...
Dans Paris, c'est plus dur quand même.
On va un petit peu en Vallée de Chevreuse. Longchamp, ou Vincennes, pour ceux qui habitent ouest, Longchamp, et puis après la Vallée de Chevreuse, où effectivement, c'est un petit peu plus agréable, je dirais, pour faire du vélo que sur Paris. Quoi. C'est pas la campagne, mais bon, on s'y fait.
Et vous, Sébastien, alors, vous êtes, je crois, moniteur, c'est ça hein,
alors, moi, je suis moniteur de sport à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'est mon travail à temps plein.
Se passe comment, un quotidien de moniteur de sport ?
Un quotidien de moniteur de sport, c'est 7 heures au bureau et on prépare la journée. Donc, on est souvent sur des évaluations annuelles de sport parce que chaque pompier doit être évalué annuellement au niveau sportif.
Quand même, ça fait partie de sa fiche de poste.
Donc la course à pied, la natation les pompes.
D'accord.
Voilà, ça c'est, on va dire, le package du pompier de Paris que tous les ans, il doit effectuer pour pouvoir garder son aptitude physique, pour pouvoir partir sur intervention.
Alors, bon, s'il régresse un peu, s'il est blessé, comment ça se passe ?
Alors, bah, s'il est blessé, c'est pas très très grave.
Enfin, parce
S'il régresse un peu, bah, après, c'est à lui de se remettre au niveau.
Oui, donc entraînement double. Quoi.
Ah ben bah, oui, entraînement double. Alors après, attention au risque de blessure. Mais oui, il faut retrouver son niveau. Faut quand même garder une certaine condition physique parce que le métier de pompier de Paris, c'est un métier qui est exigeant.
Ouais, ouais.
Et on est quand même au contact de la population, donc on se doit d'être exigeant avec nous-mêmes.
Ouais.
Donc toujours de maintenir un certain niveau physique élevé.
Ouais. Ça fait partie du quotidien.
Oui.
Ça veut dire que vous faites aussi attention à ce que vous mangez, éventuellement ce que vous buvez, même si on peut se laisser aller un petit peu de temps d'eau.
Alors de toute façon, on est bien obligé de ne pas manger n'importe quoi. Mais oui, on essaye du moins de faire attention à ce qu'on mange. De pas trop faire d'écart, important. Et après, bah, c'est quand même taxant parce qu'on a quand même deux séances de sport dans la journée, 8h-10h et 17h-19h, des séances qui sont obligatoires. Donc bah, vous pensez bien qu'il faut s'alimenter pour que le corps réussisse à tenir sur ces journées-là. Et on enchaîne des 24, 48 ou 72 heures.
Et vous accompagnez tout ça physiquement et psychologiquement ?
Alors oui, physiquement, parce que du coup, en tant que moniteur de sport, on se doit d'être sur des séances, ce qu'on appelle des séances dirigées. Voilà, pour les personnels qui sont un peu plus en difficulté, on est là pour leur proposer soit des programmes, soit des accompagnements. D'accord ? Et après, mentalement, oui, parce que moi, je suis un moniteur d'ORFA, pour vulgariser le terme, on va dire préparateur mental. Donc on prépare également certains personnels qui sont dans la difficulté mentalement à certaines épreuves.
Oui, parce qu'il faut le dire, ça arrive comme dans tout métier, on peut parfois douter.
Bien sûr.
Hein ? Donc,
bien sûr.
Ça peut avoir des incidences sur votre quotidien.
Oui, alors on peut douter avant, on peut douter après, mais pendant, on ne doute jamais. Parce qu'on est tellement... comment dire ? C'est tellement devenu une mécanique qu'en fait, on travaille tous les jours, on manœuvre tous les jours. Hein. Donc, c'est des gens qui ont les gestes ancrés en eux.
Ouais. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir peur ? Parce que, est-ce qu'un matin, on peut dire non ?
Bien sûr,
j'y vais pas. Quoi.
On n'est pas des super-héros. Hein.
Non,
on a peur.
Non, parce que des fois, il y a quand même des situations.
Oui, mais la peur fait partie de notre métier et la personne qui n'a pas peur devient dangereuse pour elle-même et pour les autres.
Et ça, on l'apprend juste à maîtriser sa peur.
Bien sûr, sur les 4 mois de formation que les jeunes ont, c'est quelque chose qu'on leur enseigne. Et justement, je me permets de rebondir sur la question des personnels qui s'en vont. C'est pas donné à tout le monde d'être pompier de Paris.
Bien sûr. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Hein,
exactement. Et pour savoir si on est fait pour ce métier, il faut être confronté au métier. Et quand les gens sont confrontés au métier, ils s'aperçoivent que justement, c'est pas leur vocation. Ils s'en vont d'eux-mêmes.
Et il y a beaucoup comme ça
Non, parce que avec les réseaux sociaux et toutes les plateformes, les gens sont informés de tout ce qui se passe. Donc maintenant, les gens qui viennent chez nous, ils savent pourquoi ils viennent chez nous et qu'est-ce qu'ils attendent chez nous.
Oui. Flo, ça vous inspire un commentaire ? Est-ce que vous...
Ça inspire surtout du respect, à commencer par le respect déjà, pour tout ce qu'ils font. Et puis, on comprend bien la rigueur militaire, on comprend bien que quand on intervient pour sauver des gens, pour aider les gens, effectivement, c'est quand même mieux de s'imaginer qu'il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard. Donc quand Sébastien disait que c'est les gestes, il les répète, j'imagine que quand ils sont en intervention, tout est automatique pour eux. Effectivement, après,
c'est du sport de haut niveau, il faut le dire. Hein. Voilà, c'est
ça. Je pense. Hein.
C'est exactement ça, c'est du sport de haut niveau. Et le sport de haut niveau, ça se travaille tout le temps, tous les jours, et par tous les temps. Et c'est exactement le métier de pompier de Paris.
Vulgairement, dans l'armée, on appelle ça du drill. Effectivement, c'est tous les jours, il répète les mêmes gestes. Voilà.
C'est ça.
Porter une échelle, dérouler un tuyau. Enfin, voilà, c'est tous les jours pour que ça devienne instinctif et que ça soit. On n'a pas besoin de réfléchir le jour où, le jour où il y a l'incendie, l'intervention. Hop, c'est automatique.
Ouais. Vanessa, ça t'inspire un commentaire ?
Beaucoup de respect, vous le soulignez. Et puis, c'est vrai que c'est extrêmement exigeant.
Alors, justement, vous avez beaucoup de demandes chaque année ?
De pomper. Ce que je vous raconte pas de bêtises, mais.
1200. 1200 jeunes qui incorporent chaque année. Ouais.
Ça fait toujours rêver, quoi, comme, malgré tout.
Non. Oui, bien sûr.
Oui. Non, mais tant mieux.
Ah, oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, même ça fait plaisir. J'ai juste une petite anecdote. Il y a 4 mois de ça, puisqu'il a terminé sa formation il y a tout juste un mois, là c'était début juin. J'avais un ancien collègue, puisque maintenant il est parti dans le sud de la France, mais j'étais avec lui dans une caserne à Aubervilliers dans le 93, et il m'a appelé en début d'année. Son neveu, donc en fait voilà, son neveu qui voulait rentrer à la brigade, et il me demandait voilà quelles étaient les un petit peu la filière pour entrer, et puis voilà pour essayer de le faire entrer. Donc effectivement son oncle avec qui j'étais en caserne, c'est maintenant son neveu, et donc effectivement on voit que le temps passe, mais effectivement voilà, c'est, je pense qu'il y a toujours autant de jeunes qui sont motivés par ce beau métier, et puis après ça s'apprend sur le terrain.
Oui, bien sûr.
On est formé un petit peu de rigueur de temps en temps, parce que voilà, la rigueur est importante.
En plus, il y a des décalages horaires.
Oui, tout à fait.
24, 48 ou 72 heures de garde d'affilée.
Non, c'est pour ça. Non, mais par rapport à la pratique du sport, il faut le dire quand même.
C'est-à-dire qu'on peut ne pas dormir la nuit sur notre première garde de 24 heures. Et repartir sur une journée dite classique. Alors, bien évidemment, on dit classique, mais adaptée quand même. Alors, on prend en compte l'état des personnels. Ça ne sert à rien de les envoyer au carton s'ils sont fatigués. Donc, c'est des séances de sport qui sont adaptées, mais c'est sport quand même.
Ouais, bien sûr.
C'est pas vous rester allongé dans votre lit ou sur le canapé en train de regarder la télé. Non, c'est sport, manœuvre. Ouais. Voilà, c'est une journée qui, hormis les interventions, c'est une journée qui est quand même rythmée.
Ouais, bien sûr.
C'est pas parce qu'il n'y a pas d'intervention qu'on reste tranquille. Non.
Vaut mieux qu'il n'y en ait pas.
Oui, quelque part. Bon, vous savez, en 2024, il y a eu beaucoup, beaucoup d'interventions.
Je sais, entre le feu, les inondations, tout ça.
474 000 interventions.
Oui. Et alors, les plus nombreuses, c'est quoi? C'est le feu?
Non, c'est le secours à victimes.
Secours à victimes.
Ça représente environ 85%.
C'est-à-dire les accidents de la route,
accidents de la route, malaise, accidents domestiques, arrêt cardiaque, des gens qui se blessent sur leur lieu de travail.
Et on peut vous appeler pour n'importe quoi, non? Parce qu'à un moment, il y en a qui vous appelaient pour des chats, qui étaient sur les toits.
Alors, il faut garder à l'esprit que le métier de pompier de Paris et le métier en règle générale de pompier, c'est de l'urgence.
Voilà.
Mais le problème, c'est que la notion d'urgence, c'est pas la même pour tout le monde.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Voilà.
Mmh. Alors, est-ce que vous êtes toujours bien reçu? Toujours autant?
Toujours, pardon?
Bien reçu?
Oui.
Oui, non, parce que malheureusement,
effectivement, il y a des cas particuliers, des exceptions. Ouais. Quand il y a certains troubles, certaines manifestations, il peut s'avérer que effectivement il y a des débordements, mais après comme disait Sébastien, effectivement les pompiers ils sont un petit peu, je dirais, ils serrent les dents, et puis l'objectif c'est de pas se laisser emporter par l'émotion, ou s'il va y avoir un affrontement, etc. Le mieux c'est prendre du recul. Se mettre en retrait, et puis parce que après c'est effet boule de neige, je donne un coup, tu donnes un coup, donc c'est pas l'objectif, c'est pas notre mission, mais effectivement ça peut arriver que il y a des jeunes avec des comportements qui sont pas,
dans la majorité des cas, ça se passe extrêmement bien,
c'est
dramatisant,
c'est exceptionnel. Non.
Est-ce que vous avez des demandes pour la pratique de d'autres sports? Est-ce qu'il y a des demandes là, dans les prochaines semaines? Non, il n'y a personne.
La section cross-training, c'est la dernière année à la ZASP. Ça fait, on va dire, les 4 mois.
Alors, on va rappeler ce que c'est le cross-training.
Le cross-training, c'est un mélange de gymnastique, d'haltérophilie et d'endurance. Voilà, donc on peut mélanger très bien... de la course à pied avec soulever des poids et faire de la gymnastique sur les anneaux, par exemple. Donc c'est un mélange de tout ça. On met tout ça dans une boîte, on secoue, on sort 3 mouvements, 4 mouvements, et on a un quart d'heure pour faire le maximum de tours possible. Voilà. Donc ça, c'est la dernière année de la section ASASP. Donc on est 7 adhérents pour l'instant, et pareil, on a vocation à aller représenter cette section sur les différentes compétitions militaire ou civil. Voilà. et peut-être participer sur des compétitions nationales de renom, notamment les French Throwdown, ou de renommée internationale.
Ah oui, parce que ça vous emmène des fois à voyager, à aller loin, en Europe, et peut-être même en dehors de l'Europe.
Et peut-être même dans le monde, oui. Donc, pour l'instant, voilà, on est tout petit, on vient d'être créé, mais il faut pas se donner de limites. Hein. Nous,
ouais,
voilà, nous, le cross-training, c'est une discipline qui maintenant fonctionne, on le sait, qui est très proche du sapeur-pompier. Mm-hmm. Voilà.
Ouais.
Donc,
ça vous est arrivé d'aller en compétition mondiale, internationale?
Personnellement, non.
Avec la Marseillaise.
Personnellement, non, mais certaines sections, oui, tout à fait. Le foot.
Le basket, actuellement, ils sont à l'étranger.
Ouais. Oui. Personnellement, non. J'espère peut-être un jour.
Alors, vous vous connaissez tous, hein, donc vous vous encouragez entre vous, même si vous ne faites pas les mêmes sports.
Il y a tous les niveaux. Il y a des jeunes comme des plus âgés, même chez nous, dans la section cyclisme, là, le plus âgé, c'est Christian, c'est un ancien sapeur-pompier qui est à la retraite maintenant et qui a 75 ans. Donc je dirais, il n'y a pas de limite d'âge, on accepte tout le monde, hommes, femmes, enfants, adultes, personnes un petit peu plus âgées, d'autres. Et donc forcément, il y a des bons et il y a des moins bons. L'objectif, c'est de se faire plaisir, d'arriver au bout, et puis voilà quoi. Il n'y a pas d'objectif de performance, c'est la cohésion et puis des potes, voilà.
Ouais. Et vous, Jacques, en matière de vélo, il y a un rêve secret? Monter le Mont Ventoux.
ça c'est déjà fait, plus d'une fois.
Le programme du Tour de France cette année. Hein.
Tout à fait. Montpellier, le Mont Ventoux, exactement, tout à fait. Il n'y a pas de. Enfin oui, après c'est des. Voilà, il y a des sorties qui sont récurrentes tous les ans. Les championnats de France, les compétitions militaires, voilà, qui reviennent tous les ans, où il y a une petite, il y a une compétition, un petit peu l'adrénaline qui monte. Puisque effectivement il y a des on s'entraîne, on se donne cet objectif pour essayer que le jour J on soit potentiellement sur le podium, ça serait pas mal quoi, et encore mieux sur la première marche. Et tenir le maillot, le petit maillot bleu blanc rouge, c'est sympa quoi. Donc cette année on a fini deuxième là en senior 1, Enzo là, un collègue, et tous les gens, il y a ce petit objectif, et puis après personnellement moi c'est effectivement participer toujours à ce style de manifestation, et puis essayer que cette section perdure dans le temps, ça donne une certaine émulation là, avec pour que d'autres sections se créent, faire vivre la ZASP, et puis rayonner un petit peu avec le maillot de la BSPP, et puis un petit peu sur différentes manifestations.
C'est un sport qui est cher quand même, le vélo, hein.
C'est pas donné, pour le matériel, il faudrait pas que je change de vélo tous les mois, parce que je connais une certaine personne qui pourrait me dire
c'est vrai que le matériel a tellement évolué aujourd'hui que...
les vélos c'est pas donné, un maillot, un cuissard, et puis des pompes, un courbon. Un vélo peut vite monter.
Est-ce que c'est un problème ça, Sébastien, le prix dans les différents sports? Il y a des sports moins chers que d'autres.
Exactement.
Il y a des sports moins. Chaussures de pointe, et puis voilà quoi.
Après, il y a les pointes d'entraînement, les pointes de compétition. Il y a les pointes suivant la piste. Non, je pense que faire du sport, ça a quand même un coût. On va pas se mentir. Mais après, tout dépend de la discipline que l'on choisit. La dernière fois, je parlais avec un des responsables de la section judo. C'est pas un kimono. Deux, trois, parce que quand on part en compétition, qu'on fait peut-être deux jours de compétition. Je pense que le sport, à force, ça devient cher. Mais il faut pas que ça soit un frein pour la pratique. Après, on va pas se mentir, une chaussure de course à pied, une bonne chaussure de course à pied entre 100 et 150 euros. Et puis du bitume, il y en a de partout.
Non, mais c'est sûr. Et puis, chacun gère son budget pour ses déplacements.
Alors,
il y a des déplacements quand même. Ouais.
Oui. Alors nous, on peut demander.
Alors il y a une aide.
Oui, oui, nous on peut demander. Oui, nous on peut demander. Et puis après, c'est aussi aux adhérents de financer à une certaine hauteur. Mais on essaye de faire 50-50. D'accord. 50 associations et 50 le personnel.
Alors, vous avez aussi des manifestations extérieures. Par exemple, je m'explique, il y a un bal des pompiers le 14 juillet.
Oui.
Est-ce que ça vous sert justement aussi pour vos associations sportives? Ça fait rentrer de l'argent?
Non.
Non, c'est pas ça.
Non.
Ça, c'est pas utilisé.
Non, c'est vraiment la cotisation des adhérents et la demande de budget annuel qui finance.
Et les ministères, ils peuvent... non? Pas trop.
Non, parce que ça valorise quand même votre corps de métier. Ça reste le financement reste, je dirais, les cotisations des adhérents. Mm-hmm. Et puis après, d'une année sur l'autre, effectivement, il y a un budget qui se crée, quoi. Mais effectivement, non, il n'y a pas d'aide de. Alors après, chaque section, par contre, peut potentiellement demander un sponsor.
Oui, oui, c'est ça. Voilà, pour ça, c'est pas interdit.
En étant... participer à une manifestation, se faire faire des maillots, une tenue, des choses comme ça. Quoi. Mais je dirais, mis à part ça, après, l'association, elle gère son budget avec ce nombre de sa participation.
Et vous, Sébastien, vous accompagnez donc en tant que moniteur des sports, vous essayez d'aller voir le maximum de compétitions.
Alors, ça c'est mon autre casquette. Mais alors,
de basket qui joue.
Alors non, parce que sinon je serais pas beaucoup à la maison et ma femme et mon fils me verraient pas beaucoup. mais non. Par contre, au-delà de voir des compétitions, nous on organise des championnats en interne.
Oui, voilà. Ça, c'est intéressant.
Voilà. Par exemple, là il y a une semaine, on a fait la Canal 18. C'est une nage dans le canal de l'Ourcq.
Ah bien, voilà, mais on parlait de Paris-Plage, il n'y a pas
longtemps. Tout à l'heure, on a de la baignade en Seine.
Voilà, nous, on a fait la Canal 18, c'est une nage en eau libre au canal de l'Ourcq, à Pantin, là, à Place de la Pointe. Et on a fait 1000 mètres, 1500 mètres ou 2000 mètres. Et les pompiers de Paris s'inscrivaient sur la distance qu'ils voulaient.
D'accord.
Donc, voilà, on fait également la course mixte, qui est une course organisée par nous, où les conjoints et conjointes de militaires peuvent courir avec eux sur une distance. Donc l'année dernière, on a fait 4 km ou 8 km. Mmh. Voilà, l'année prochaine, on fera peut-être 6 et 10. Donc, voilà. Donc en fait, on organise des rassemblements sportifs pour justement que on crée justement cette cohésion-là et que les personnels se voient. Parce que sinon, tout le monde travaille.
Et oui, tout le monde n'a pas forcément.
Exactement, dans sa petite caserne, dans son petit bureau et personne ne se voit. Donc c'est important de créer des événements qui sont accessibles à tous. Pour justement créer cette petite émulation. Et voilà. Donc on organise quand même régulièrement des challenges.
Et puis on aura aussi de l'aquathlon cet été dans les différents événements nautiques, natation.
Alors ça tombe bien parce que dans la précédente émission, on a parlé naturellement d'Olympisme et de Paralympisme. Vous avez accompagné les Jeux? Comment ça s'est passé?
Oui.
On a
accompagné. Bah, alors déjà, il y a l'équipe de gymnastique des pompiers de Paris qui a fait l'ouverture et la fermeture.
Ah oui,
cérémonie d'ouverture et cérémonie de fermeture.
Je m'en souviens,
Voilà, et après, on a accompagné les Jeux parce que, mine de rien, toutes les casernes étaient à 100%. Voilà. Donc,
mobilisation
à 100%, exactement. au cas où, s'il y avait quelque chose de grave. Donc oui, on y a contribué. Et après, on a des parrains et des marraines qui ont participé aux Jeux.
Ouais.
Voilà.
Et on parlait hier avec Pascal Gentil, dont on va écouter l'interview. Il y avait aussi des championnats militaires. Il en a parlé
que
l'aéroport de Paris a accompagné militaire à travers ses activités. Voilà.
Championnat du monde militaire, on a eu 8 médailles.
Oui. Les militaires sont quand même dans le milieu sportif, sont très très bien représentés.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, non, on sait qu'en biathlon, il y a beaucoup de douaniers.
Exemple, Martin Fourcade, grand nom du biathlon, c'est un militaire. Il y en a énormément, Gressier notamment.
Oui. Ah oui.
Ouais. Mm-hmm. Donc c'est des noms qui brillent sur la scène nationale et internationale, mais qui sont militaires.
Très bien, on va marquer une petite pause musicale. Ensuite, je vous propose un cours d'initiation au ski nautique. D'accord ? Allez,
parfait.
La musique et après le ski nautique.
sir. What's the name?
Adios, sir. Adios, sir. Yeah, yeah.
One man, two man, three. You don't break your limits. Break your limits. Come, they move like a disco. One nick in my lolata. Happy boss, happy actor. So never give me ballon d'or. Oh, yeah, come take a picture. Run, run, yo, I am by yo. Oh, yeah, follow my instruction. Smoke cannabis. Doctor say make a pop on a dish. Make me fly like say I'm Aladdin. Come bring some kind melodies. I'm a mess myself, no two pass a this. So many things inside of my jeans. Slide down the beatings, the beatings. Like LMS. Come they move like a disco. One nick in my lolata. Happy boss, happy actor. So never give me ballon d'or. Oh yeah, come take a picture. Rub right, yo, young fire. Oh, yeah, follow my instruction.
Oh, Lord of mercy. I dey be one way, they calling me messy. I dey for shit, she go fly, come check me. I never see person with fee money impress me. All of the things she dey do, she dey test me. I dey be kill away for back, I dey pressing. The one I carry come down, they suspect me. She call me small, but they biggie engine. On my number, she calling up. Anytime when she want, give me love, you know. I like a flat tire, me go bump it up. And every other day, now she dey turn me on. Say me, I see they make a turn him up. As soon as you reach out to the concrete, while I forget, see, I guide you for this. Your mom, what you get, tell them, you
can't tell them, can they move like a disco? One nick in my lolata. Happy boss, happy actor. So they fucking me ballon d'or. Oh yeah, come take a picture. Rub right, yo, I am fire. Oh yeah, follow my instruction. One
Voilà, cette émission, bah, vous pourrez la réécouter en podcast, vous pourrez réécouter aussi celle qu'on a faite, qu'on vous a présentée tout à l'heure, puis toutes les émissions précédentes, hein, le subuté ou le tir. Comme ça, vous pourrez rester avec nous pendant toute cette période d'été. Alors, il fait chaud, on bat donc des records de canicule, on va aller un petit peu prendre l'eau à travers donc, le ski nautique. Je l'ai dit, donc avec la section donc, ski nautique d'Herblay sur Seine. Alors, Flo, depuis quand existe cette section ?
Nous, on existe depuis 35 ans.
35 ans ?
Ouais, 35 ans. Ouais.
Et vous connaissez pourquoi ? Qui a eu l'idée comme ça ?
Alors,
parce que c'est pas évident quand même.
L'idée, c'est un projet familial qui s'est monté de base.
Ah ouais,
ouais,
ah ouais,
c'est mon tonton, une bande de copains, mon père,
ouais,
dont mon père, qui ont rejoint l'aventure avec que des bénévoles. Qui ont monté cette section, ensuite affiliation à la Fédération Française de Ski Nautique.
Oui, mais il faut des autorisations pour aller sur la Seine.
Oui, ouais, ouais, il faut des autorisations. On a été beaucoup aidé par la VNF, hein, c'est Voies Navigables de France. C'est eux qui décident qui a accès à la Seine ou pas, qui a accès, si tu veux faire du kayak, ce que tu veux, il faut passer par eux. Ils ont un super service, ils sont hyper, hyper gentils avec nous, ils sont toujours serviables. Et donc on a cette chance d'être accompagné par eux. On est accueilli par la ville d'Herblay-sur-Seine, qui fait qu'historiquement on est là-bas. Et puis le papa, le tonton, toutes les personnes historiques du club sont parties en retraite. Et puis les jeunes générations comme moi, hein, qui blanchissent, ont repris le club, donc avec Jérôme, ouais, Arnaud et puis moi. Et on est accompagné aussi de nos femmes qui font que aujourd'hui, le club peut vivre aussi, parce qu'on n'est pas que tous les trois, en vrai, on est six.
Non, mais c'est bien que les générations suivantes aient pu, comme ça, perdurer la vie de ce club.
Ouais, ouais, bah c'était un petit défi personnel, et puis bon, c'est sentimental aussi. Ouais.
justement, assez souvent, c'est aussi une affaire familiale. On constate dans le ski nautique, entre autres, qu'il y a justement souvent des... dans la même famille, une pratique, je pense notamment à Vanessa Agus-Miroli, mais aussi peut-être du côté d'Annecy, mais aussi il y a eu plusieurs pratiquants chez les Lucines qui sont aussi pratiquants en patinage artistique, mais ils faisaient ça à côté aussi. Donc c'est aussi, c'était pour rebondir sur la transmission dans la famille.
La première histoire de famille, enfin vraiment, que j'ai en mémoire, hein, c'est celle de Patrice Martin.
Oui, j'allais le dire.
Patrice Martin, oui, effectivement, qui c'est son père, hein, qui l'entraînait.
Oui. Il était, je crois, photographe au football club de Nantes. Ouais. Oui. Et ensuite,
c'est ça.
Et ensuite, il l'a entraîné et après il s'est consacré. Alors justement, vous regrettez pas de pas être sport olympique? Parce qu'on connaît Patrice Martin, on l'a souvent côtoyé. Quel palmarès aurait été le sportif français le plus titré avec Jeannine Longo?
Ouais, Patrice, il est incroyable. Hein. C'est un sportif. Enfin, je parle sportivement parlant. Jérôme le connaît personnellement.
Oui, et puis en
bien.
Plus, toujours le punch, toujours.
Ouais. C'est quelqu'un de formidable. Il est, c'est sportivement parlant et tout ça. C'est quelqu'un qui milite encore beaucoup, hein, pour intégrer le ski nautique en sport olympique. Après, c'est une carrière. Peu de gens le savent, mais effectivement, c'est ceux qui ont un petit peu de culture sportive, son nom sort rapidement parce que c'est des titres. Comme on en parlait avec nos collègues pompiers juste un petit peu auparavant, un titre en sport, peu importe la fédération dans laquelle on est, c'est toujours énormément de travail, énormément de rigueur. Et Patrice, pour ça, c'est un exemple. Hein.
Oui, et puis on a l'image de ce petit blondinet. On se rappelle dans les années 70 qu'on voyait donc effectivement sur les skis, quoi.
Ouais, le petit prince, ouais, effectivement. Ouais.
Alors, vous êtes combien dans votre section à l'heure actuelle?
Dans le club, nous, dans le club, on est à peu près 200 licenciés, 200-250 licenciés. Bon, ça fluctue en fonction de la météo, nous, essentiellement. Je crois qu'on est à peu près ça, dans les 200-250 licenciés. On fait partie des clubs moyens de France.
Mmh. Ah ouais. Alors, quand on prend une licence, ça se passe comment? C'est-à-dire, c'est uniquement loisir ou alors on peut aussi faire de la compétition?
Alors, chez nous, ça se passe toujours bien.
Oui, bien sûr.
Voilà. parce qu'on...
Il y a toujours le sourire, la bonne humeur, voilà,
ouais,
la bienveillance.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Alors, nous, on est tous moniteurs diplômés d'État.
Ah oui, quand même.
On est tous donc pilotes de bateau et moniteurs diplômés d'État.
Oui, parce que... J'allais aussi parler du rôle du pilote de bateau.
Ouais.
Il doit avoir un rôle très important parce que c'est lui qui met la vitesse.
C'est effectivement, le rôle du pilote du bateau, c'est effectivement essentiel. Hein. C'est lui déjà qui garantit la sécurité à bord de son bateau. C'est ensuite il garantit la sécurité de son skieur qui est derrière. Et puis faut faire attention à la navigation.
Il faut être licencié au ski nautique pour être pilote ou on peut prendre un pilote offshore qui n'est pas dans le ski nautique?
Non, pour être pilote de ski nautique, avoir quelqu'un qui est tracté derrière ton bateau à 18 mètres, ça reste quand même une envergure par rapport à ton bateau qui est particulière.
C'est quel type de bateau?
C'est pas juste de la navigation.
C'est quel type de
Alors,
bateau?
C'est des bateaux de ski nautique. Ils sont prévus
à cet
effet.
Pour le ski nautique, c'est pas le bateau lambda,
non,
quoi.
Non.
Il faut parler près du micro, Vanessa.
Il y a des aménagements et puis tout un... Parce que j'en ai vu récemment à côté de Neuilly-de-Plaisance, des pratiquants de ski nautique, il y a des aménagements aussi dans le bateau et puis il y a tout un genre de rituel, enfin de procédure sur... La première course entre guillemets, puis on s'arrête et puis on reprend et puis
c'est ça. Voilà. Donc le ski nautique, hein, en soi, c'est tout le monde peut le pratiquer. Si t'as un bateau, un gilet, des skis, tout le monde peut le pratiquer. Maintenant, nous on le pratique de manière on va dire sportive, on peut accompagner les gens du débutant au perfectionnement à la compétition. On a encore des compétiteurs chez nous. Donc on accompagne les gens comme ça et l'idée c'est à l'entraînement de se mettre dans les mêmes conditions que quelqu'un qui ferait une compétition. Mmh. Voilà, donc comme disait Vanessa, l'espèce de rituel avec les coulées au bout de chaque passage pour laisser le plan d'eau revenir à plat, pas skier dans les vagues, faire progresser ton skieur aussi au moment où tu le coules, pouvoir lui donner quelques conseils pour qu'il continue à progresser ou voir son ressenti un petit peu de ce qui va, de ce qui ne va pas. Enfin voilà, c'est d'être vraiment présent pour tout le monde.
Mais alors, c'est un sport à la portée de tout le monde. À quel âge on peut le commencer? Nous, si demain, on vient faire du ski nautique, est-ce qu'on a les qualités pour le faire? Est-ce qu'on n'a pas les qualités? Est-ce qu'il y a un profil type?
De 7 à 77 ans, oui. J'ai envie de dire, même avant, hein, notre plus jeune waker cette année, c'est 5 ou 7 ans, ou 6 ans peut-être.
Ouais, 7 ans.
7 ans.
Un waker, ouais, un jeune waker oui. de 7 ans.
Comment on lui apprend le ski nautique justement? Parce que ça ne doit pas être pareil que si on commence à 30 ou 35 ans.
On apprend à tout le monde de la même manière.
Oui,
ouais, les gens sont réceptifs, ils sont... Enfin, on a vraiment des profils... c'est incroyable le nombre de profils qu'on a, des gens que tu croises dans la rue... qui sont vraiment, t'aurais l'impression qu'ils sont pas du tout faits pour le sport, qui veulent essayer le ski nautique. L'année dernière, il y a 2 ans, on a quelqu'un qui est venu faire du ski nautique, nous voir. C'était le rêve de sa vie de se dire je veux faire du ski nautique.
Ouais.
Bon, on est là et c'est parti. Et il avait fait un truc, on l'a plus jamais revu.
Donc il a fait une heure d'initiation.
Il a fait son initiation, il est reparti avec le sourire, il nous a dit merci. Et je pense qu'il avait coché un truc dans sa vie. Ouais, voilà. Et puis bon, après, t'as les gens qui savent ce que c'est, qui s'entraînent au quotidien.
Alors, enfin, ça se passe comment, une séance d'entraînement? C'est-à-dire, on monte sur les skis
Alors déjà, nous, on accueille toujours les gens avec le sourire, parce que c'est un sport qui est aquatique. Donc les gens, souvent, ils ont cette petite appréhension quand même de l'eau. T'es dans l'eau, t'es quand même pas dans ton milieu naturel. En plus, avec des skis accrochés aux pieds. Donc, t'es vite un petit peu submergé par l'émotion, ou en tout cas par le stress. Donc nous, l'idée déjà, c'est de mettre les personnes dans de bonnes conditions pour qu'ils soient bien, pour les mettre dans de bonnes conditions. Donc que ce soit Jérôme, Arnaud ou moi, on leur fait une petite séance d'initiation au sol. Donc on explique tout ce qui va se passer dans l'eau
au
sol.
Donc la théorie. Ouais.
Exactement. Ouais. Avec nous, notre ressenti maintenant, puisqu'on a plusieurs années de pratique. Hein. Donc avec notre ressenti et tout ça, souvent on se concerte. On est tout le temps ensemble. Hein. On est inséparables. On se concerte et puis c'est à ce moment-là ensuite qu'on va passer la personne dans l'eau. Soit on va être à 2 ou à 3 si la personne ça nécessite.
Oui, parce qu'on tombe au début,
on l'aide.
Tout de suite. Voilà. Totalement, on va tomber.
On tombe.
Il faut apprendre à savoir se rester sur les skis. Déjà, les skis sont comment? C'est des skis comme pour les compétitions de ski de fond, de soi ski.
Alors, tu sais, c'est comme les raquettes de tennis. Avant, c'était en bois et puis maintenant, ça a évolué. Ouais. C'est en plastique, ça flotte un peu plus, c'est plus large. Voilà, ça aide les gens. Adapté à toutes les personnes qui...
Et les dimensions?
Les dimensions, c'est comme les skis alpins, en fonction des personnes en fonction de la taille des personnes. Ouais.
D'accord, ok. Ah oui, donc c'est en fonction...
Ouais.
Donc là, il vous faut un jour de ski, à vous, en
donc
tant
nous,
que
nous, étant école, on est vraiment école de ski nautique, recensée en tant qu'école de ski nautique. Et du coup, oui, on a quand même de l'équipement pour que ce soit des combinaisons, des gilets. Il faut faire du XS au 5XL. Parce que tu me demandais les profils.
Oui.
On a du 5XL, on a des journalistes qui viennent skier aussi.
Ah ouais, ça va, oui. On ira peut-être un jour faire des
skis.
Ça veut y aller.
Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. En ce moment, l'eau est chaude.
Ouais. Alors, on commence une séance. Ça se passe comment? Combien de temps? Une heure et demie?
Alors, ouais, ça c'est rigolo parce que c'est vraiment dans le commun des mortels. Les gens disent, on va faire une heure et demie.
Non, même pas.
Bon, déjà, si au bout d'un quart d'heure, t'as
on
les bras.
Mort, on est mort dans les jambes, dans les bras.
Dans les bras, ouais. Nous, on dit vulgairement qu'on a les bras qui klaxonnent au bout de 15 minutes. les gens nous disent, ouais, voilà, c'est ça d'être acté, un petit peu de stress et tout ça. Et en fin de compte, au bout d'un quart d'heure, souvent la personne, elle dit, c'est bon, je rentre.
Je me demandais sur la pratique, justement, pour qu'il y ait quand même un... Évidemment, c'est de l'entraînement avec les années, mais pour qu'il y ait quand même une gestion à la fois du relâchement et puis de la tension quand on est sur les skis nautiques. Sur quoi on travaille, quels sont les exercices, même à côté. Après, on évolue vers le haut niveau. Qu'est-ce qu'on travaille en particulier? Peut-être vaste, ce que je pose comme question.
Les bras, les jambes.
Alors, au départ, le stress. Au départ, pour le relâchement, c'est le stress. C'est vraiment dans le mental. Là, c'est notre rôle à nous de coach, de coach-moniteur, de pouvoir vraiment mettre les gens à l'aise, qui se détendent, le fait d'être dans l'eau, tout ça, qui soit bien. Après, quand c'est du sport qu'on pratique à plus haut niveau ou en compétition, comme tous les sports, ça demande de la préparation physique, ça demande vraiment du...
Après, c'est un sport qui est aussi très complet. Je pense qu'il n'y a pas un groupe musculaire qui n'est pas sollicité en ski nautique.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, on le voit parce que c'est une activité qu'on ne pratique pas toute l'année. Et quand on recommence la saison en début d'année, même si on a fait une préparation pendant l'hiver, chose qu'on ne fait pas toujours.
On fait quoi en cours? On fait du vélo?
Je pense un petit peu comme tous les sports qui sont un peu saisonniers, on va dire. Il y a l'entretien... C'est voilà, tout ce qui est gainage, musculation, c'est important, la course. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, voilà, quand la saison reprend, même si on a fait une bonne préparation, il y a quand même très peu de skieurs chez nous là, qui recommencent la saison sans les premières courbatures de la première séance.
Voilà, alors, il faut bien se tenir, il faut se tenir droit, il ne faut pas plier les jambes, c'est ça, non?
Oui, c'est vrai.
La difficulté, ouais. Et ça, ça prend des heures pour acquérir ces automatismes.
Ben, bizarrement, moi, je trouve que c'est chez les filles et, ah ouais, chez les jeunes que ça fonctionne le mieux.
Non, mais c'est intéressant.
Parce que c'est ceux qui nous écoutent le mieux.
D'accord.
ça revient souvent, on en parlait justement. Ouais. Avec notre précédent invité.
Ouais, quand on a des costauds du sport ou des gens qui veulent vraiment être dynamiques et très volontaires, très, très actifs sur les skis, au départ, vaut mieux être passif. Et donc, les filles ou les jeunes en général, c'est des éponges quand on leur donne un conseil. Si tu mets le buste droit, tu gardes tes genoux fléchis, c'est instantané.
Donc, il n'y a pas de problème de poids, qu'on fasse 50 kilos
ou 150,
90 kilos,
ou 150,
on peut avoir les mêmes automatismes.
Ou 150, même, tu peux monter vraiment. Hein, ouais. Et la pratique, je te parle de la pratique du monoski, du monoski nautique. Hein, au-delà donc, c'est une étape supplémentaire après le biski, après l'initiation.
Oui, parce qu'il y a plusieurs spécialités. Ouais. Et ça, on se spécialise ou on peut passer d'une à l'autre?
C'est par rapport à ce que t'aimes, c'est par rapport à ton ressenti. Alors le ski nautique, ça se décompose comment? Aujourd'hui, tu as une partie qui est en câble. Hein, on a la Fédération française de ski nautique qui a beaucoup investi là, dans le câble et dans le câble. Et tu as encore la partie qui est tractée par un bateau. Nous, on fait toute la partie qui est tractée par le bateau. Ça nous permet, on aime beaucoup ça, nous, parce que ça nous permet de garder la proximité avec nos skieurs et puis de pouvoir les faire évoluer à chaque séance, pendant toute la séance. Et après, bon, tu débutes soit par le wakeboard, donc qui est un petit peu l'équivalent du snowboard.
Ouais, c'est ça, voilà, c'est sur une planche.
Sur une planche. Soit par le ski nautique, le biski, comme tu ferais du biski l'hiver. Mm-hmm. Et puis ensuite, donc la discipline, entre guillemets, qui est candidate pour les Jeux Olympiques, donc ce serait le slalom, pour lequel Patrice milite. Les figures, donc là, c'est un ski de figure qui est sans dérive, qui permet de faire. Voilà, et le wakeboard. Voilà. Après, je pense qu'il y a peut-être les autres, peut-être le barefoot qui serait aussi.
C'est quoi le barefoot?
Donc, ça, c'est quand tu es pieds nus sur l'eau.
Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ah, oui, c'est vrai qu'on a déjà vu des images de gens pieds nus sur l'eau. Ouais, ouais, ouais. Bon, et alors après, donc, on s'initie un peu, on peut se lancer dans la compétition.
Ouais.
Oui.
Ouais,
et bien sûr. Vous en avez beaucoup?
On a quelques compétiteurs.
Le président.
On a par exemple
le président, le compétiteur.
Par exemple, Jérôme. Jérôme qui a fait des compétitions avec Patrice aussi, on peut le dire aussi, parce que ça reste quand même notable. Donc oui, Jérôme qui a fait beaucoup de compétitions.
Oui, parce que vous parliez de Patrice Martin, la Fédé, elle est à Choisy-le-Roi, non, c'est ça?
Oui, exactement.
Ah ouais, donc elle n'est pas loin d'ici, quoi.
Alors, elle n'est pas loin de chez vous, elle est un peu plus loin de chez nous.
Oui, oui, chez moi, oui.
Mais la Fédé, elle est quand même vraiment active. Alors, elle est loin géographiquement, mais dans la communication, dans tout ce qu'ils font, la Fédé, elle est présente quand même dans beaucoup de choses.
Ouais. Alors, on a son portable, mais si un jour il veut venir, vous insistez, d'accord?
À Patrice, ok.
Ah ouais, ouais. Hein, pas de problème. Hein, on le fera. Non, mais ça serait donc sympa. Est-ce que les résultats sont bons dans votre club, homme-femme?
Oui. Bah après le ski nautique, ouais, ça tourne bien. Ouais.
Et moi, je voudrais savoir comment ça se passe pour une compétition. On adapte la vitesse. Ils vont à combien sur l'eau?
Vous voulez parler un petit peu?
Oui, allez-y, vous présentez.
Nous, on n'est pas trop un club à organiser des compétitions.
Oui.
On
a non, mais vous qui avez fait de la compétition, vous étiez à combien sur l'eau?
58.
58
en slalom.
Km/h.
58 en slalom, 57 en saut et en figure, c'est une vitesse libre.
Oui.
Voilà.
Et ça, c'est en accord avec le chauffeur du bateau?
Ça, c'est des règles. Non, c'est des règles internationales, ça.
D'accord.
En slalom, vitesse 58, et après, on raccourcit la corde. Une fois qu'on on arrive à cette vitesse-là, on raccourcit la corde.
D'accord, ok.
18 mètres, 16 mètres, 14
mètres. Mais on peut aller moins vite, on a le droit d'aller moins vite.
On peut aller moins vite.
Je veux dire, oui, on peut faire 55,
la vitesse,
on n'a pas besoin.
55, c'est de 3 en 3, 37, 40, 43, voilà. Mm-hmm. Ça, c'est la norme en slalom.
Ouais. Et après, donc, c'est des figures, des disciplines, et on est jugé là-dessus. Est-ce que, comme tous les jugements, il y a beaucoup de contestations?
Oui.
Je vois le sourire du président là.
Je suis juge international trois disciplines. On a été confronté à tout niveau.
Qu'est-ce qui pose problème?
On préfère l'artistique
comme au patinage, un sport que Charles Vanessa.
Une figure que le skieur.
On préfère l'artistique plus que le physique ou inverse?
Ah non, une figure c'est une rotation.
Oui.
Dans le sillage ou sur la bague.
faut que la rotation soit complète ou il faut que ce soit décollé. Et des fois, ce n'est pas complètement décollé, la rotation est mal faite, c'est pas compté.
Il y a combien de juges ? Voilà. Il y a combien de juges ?
Et alors, ça dépend. Là, il y a 5 juges en figure.
5 juges, ouais.
En slalom, il y en a 3 à la tour, 1 dans le bateau. Et en saut, 1 dans le bateau et 2 à la tour.
D'accord.
Voilà.
Oui, ouais, toujours un nombre impair de façon à ce que la décision penche d'un côté.
Oui,
quoi.
Oui. Bah, puis il y a un président de jury qui, lui, tranche à chaque fois. Oui. Voilà.
Et vous êtes avant tout un club formateur. Ce n'est pas, c'est pas vos ambitions de faire de l'élite, quoi.
Oui. Nous, on est formateurs, en plus. Voilà. Nous, on ne peut pas organiser sur la Seine. C'est un peu compliqué avec la navigation, le tourisme, tout ça. Ouais.
Il y a d'autres clubs. Hein, donc, en Ile-de-France, il y a Saint-Maur, il y a du côté de Viry-Châtillon.
Il y a Viry-Châtillon, il y a Chartrette, il y a Nemours, il y a Melun, il y a Senlis, il y a Gravon. Ouais. Puis après, il y a les téléskis, hein, évidemment. Ouais.
Est-ce que c'est un sport qui est cher? Oui.
Oui, quand même, c'est un peu c'est onéreux. Ouais.
C'est combien le prix?
Le prix d'une initiation?
Non, mais d'une initiation puis d'une licence.
Alors, si tu veux faire.
Les licences, en fait, il y a des licences à la journée.
Oui. Ça, d'accord.
C'est pas cher du tout. Hein,
ça, non, parce que c'est important pour les parents.
C'est pas cher du tout. Hein, c'est abordable. C'est 2 euros la licence journalière.
Journalière pour 2 euros. Ouais.
La licence sportive, licence à l'année, c'est 45 euros. Bon, là, c'est pour les gens qui pratiquent. Si on fait la compétition, on a une licence internationale à rajouter de 25 euros et une extension de compétition de 100 euros.
D'accord.
Donc là, c'est déjà plus onéreux, quoi.
Et l'équipement, la paire de skis, c'est à la charge du pratiquant ou les clubs fournissent systématiquement?
Alors, nous, si c'est pour l'initiation, les séances, on fournit tout. On est équipé, hein, mais généralement, si les gens font de la compétition, ils ont leur matériel.
Avec du matériel,
s'ils font le combiné, ouais, c'est très, très onéreux.
Ouais. Ouais.
Ça fait une paire de skis de saut, 2 skis de figure et un ski de slalom.
Et ça fait une saison ou alors
Oui.
Quand même. Ouais, non mais je veux dire, on peut faire plusieurs saisons.
Plusieurs saisons, une seule saison.
Et on est obligé d'en changer.
Pas les gants, ouais, c'est le ski s'use le plus. Comme dit Arnaud, ouais, c'est les gants. Les gants s'usent suivant le skieur, quoi.
Qu'est-ce qu'on pense du côté de nos amis sapeurs-pompiers, Sébastien?
Combien ça coûte une paire de skis, par exemple?
Ouais, par exemple, ça coûte combien?
Par exemple.
Un mono, ça entre 1500 et 3000, suivant la marque.
Bah, c'est un beau vélo, Jacques.
Voilà, c'est comme un vélo, c'est ce que j'allais dire.
Et c'est autant, le ski de figure, c'est à peu près autant. Les skis de saut, j'ai pas le... Bon, je suis un peu le...
Ouais, c'est pour ça que moi je fais du pied nu, il n'y a pas de matériel, t'es pied nu.
Et l'équipement, donc c'est réglementé aussi quand même, aller sur l'eau, parce que quand on tombe, ça peut faire mal quand même.
Parce que Jérôme, il indiquait les vitesses, là, les vitesses de slalom, c'est 58 km/h, les vitesses du bateau.
C'est du ciment, le
slalomer qui est derrière, il accélère, donc dans le sillage, lui, quand il fait ses traversées, il accélère.
Il
doit être à plus de 100 km/h. Donc l'eau est très dure à ces vitesses-là. Ouais.
Le gilet protège déjà. C'est vrai que le gilet, ça, c'est obligatoire, mais c'est vrai que c'est aussi une protection en cas de chute, en slalom.
Est-ce qu'on apprend à tomber, à anticiper la chute éventuellement?
Quand on a fait du judo, ça aide un peu.
Après, on apprend vite.
On se met souvent un peu en protection. Flo est un peu plus spécialiste aussi du barfoot. Quand on tombe en barfoot, on a tendance aussi à se protéger. Là, les vitesses sont impressionnantes.
Bon, vous savez ce que vous faites? Vous faites un cours d'initiation. Enfin, vous incitez nos amis sapeurs-pompiers à venir.
À venir nous voir.
Si la chute est ratée, les pompiers seront là.
Sébastien.
Nous, volontiers. Nous, on répond à toutes les invitations. Surtout que quand il s'agit de s'amuser, nous, on est là.
Ouais, très bien. Allez, la deuxième pause musicale. Ensuite, on aura une petite pachoute. Et puis, on finira cette émission avec donc nos amis de la section ski nautique d'Herblay.
I saw who you were with, too. When I saw you last night, I could easily see
Voilà, allez, on va finir donc cette dernière émission de la saison par quelques interviews, hein, puisque hier on a eu l'occasion d'être à Fontenay-sous-Bois pour un match caritatif organisé donc par l'ami William Bignon, donc avec la victoire des amis de Valdo contre ceux de, des amis de Fontenay. Alors on va pas revenir le score, c'était honorifique. On va parler un petit peu de cette journée caritative et on va commencer avec le maire donc de cette ville de Fontenay-sous-Bois, Jean-Philippe Gautré, qui nous explique un petit peu la motivation donc de cette journée foot sur Fontenay-sous-Bois.
Bonjour monsieur le maire de Fontenay-sous-Bois, vous venez de donner le coup d'envoi de ce match, quelques mots peut-être dessus?
Bah, c'est maintenant une tradition puisque l'initiative a 19 ans. Depuis 19 ans, Jean-Pierre Paoli commente et William Bignon, fontenaisien de toujours, porte ce projet qui vise à être un moment à la fois très populaire et à rassembler les générations et notamment les anciennes gloires du football et puis avec ceux qui pratiquent le foot au quotidien. Donc voilà, c'est un événement très sympathique, très populaire et auquel on a plaisir à venir chaque année.
Justement, quelle est la place du sport à Fontenay-sous-Bois et peut-être aussi avec ce gala de bienfaisance, un moyen pour beaucoup de jeunes footballeurs de pouvoir s'élever, de pouvoir pratiquer et aussi socialement?
Bah nous, on porte historiquement dans la ville le sport pour tous, que chacun puisse pratiquer un sport. On est une ville de 53 000 habitants qui a beaucoup de pratiquants sportifs, hein, plus de 10 000 licenciés. Avec beaucoup d'infrastructures sportives et en même temps on essaye d'accompagner le sport de haut niveau quand il y a des grands sportifs comme Pascal Gentil qui est là aujourd'hui en 5 médaillés de bronze de taekwondo, comme Gilles Simon au tennis ou Blaise Matuidi au foot, bref, ou l'année dernière aux Jeux Olympiques avec Cécilia Berder, l'escrimeuse. On essaye d'accompagner le développement du sport, on continue aussi d'accompagner l'inclusion puisqu'on on essaye de développer le sport adapté. Voilà, donc notre conception, c'est une ville de sport, sport pour la santé aussi, parce que ça fait du bien de faire une activité sportive, le sport scolaire qu'on accompagne. Bref, plein d'initiatives, parce que le sport, c'est aussi la vie, c'est aussi des bénévoles qui s'engagent, c'est aussi de la vie sociale, et puis c'est aussi bon pour la santé. Donc voilà, on est très heureux que ce type d'initiative vienne participer à tout ce qu'on porte dans la ville.
J'imagine que vous suivez plusieurs sports, mais peut-être avez-vous un sport de prédilection ?
Alors j'aime le sport de manière générale. Mon sport quand j'étais jeune, c'était le tennis. Mais j'ai toujours été un fanat de sport. J'adore le foot. Mais surtout, je fais de la course à pied maintenant. Beaucoup, j'en ai toujours fait, mais beaucoup. Et j'ai fait le marathon des Jeux, le marathon pour tous. Et je viens de faire le marathon de Madrid en moins de 4 heures, parce que je l'ai fait en 3h29. Donc c'est ma fierté personnelle.
Alors, merci beaucoup et félicitations.
Voilà pour l'interview donc du maire de Fontenay-sous-Bois, Jean-Philippe Gautret. On s'aperçoit quand même que la ville de Fontenay-sous-Bois est quand même très sportive, hein, Vanessa.
Tout à fait, beaucoup de sport là-bas.
Oui. Allez, quelqu'un qu'on connaît, qui est un fidèle, qui est un habitué, c'est Pascal Gentil, médaillé olympique en taekwondo et footballeur pour l'occasion. Hein, il aime participer à ce match caritatif. Gardien de but. Ouais. Il n'a pas été très quand même sollicité hier, vu la domination de l'équipe à Valdo. Allez, Pascal Gentil.
On est ici au stade Georges Letièc à Fontenay-sous-Bois. Vous revenez sur vos terres, puisque vous avez grandi ici à Fontenay-sous-Bois. Peut-être un petit mot du match que vous avez disputé ici, un gala de bienfaisance.
Un match caritatif, effectivement, gagné par William Bignon, avec le coup d'envoi qui a été donné par M. Gautret, le maire de Fontenay-sous-Bois. C'est toujours un plaisir de revenir ici à Fontenay. Je faisais partie de l'équipe des amis de Valdo, mais j'aurais pu faire partie de l'équipe d'en face, puisque ce sont que des anciens de Fontenay, que des amis. Et voilà, c'est malgré le temps qui est très très lourd, c'est une super journée. On est très très content d'être là au stade Letièc à Fontenay-sous-Bois.
Vous qui avez dû travailler pour vous payer votre première licence de taekwondo, peut-être un mot sur justement ces initiatives et sur l'aspect sociologique du sport, que ce soit à Fontenay ou ailleurs.
Ouais, c'est très très important, c'est vrai, comme vous le dites très justement. J'ai commencé ici en septembre 91, j'ai travaillé 2 mois dans un restaurant et à l'USF taekwondo, et c'est grâce au prix qui était peu onéreux, que j'ai pu me payer ma première licence. Et c'est important que le sport reste accessible aujourd'hui. C'est important que des gymnases et des stades portent le nom de femmes, qu'il y ait des représentations pour les femmes, pour que les femmes puissent avoir des rôles modèles, des exemples à suivre. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut vivre en santé et on peut vivre dans un pays apaisé. On en a besoin quand on voit le contexte international et le contexte géopolitique. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui très, très impliqué dans une association qui s'appelle Peace and Sport, qui est une des fondations du Prince Albert, où on fait la promotion de la paix par le sport.
Et peut-être aussi un mot, presque un an après ces Jeux, sur ce que ça a pu laisser, vous, qu'est-ce que vous avez pu observer sur l'après-jeu, justement?
L'après-jeu, il est très simple. On a dépensé 6 milliards d'euros pour ces Jeux de Paris 2024. On a un excédent de 34 millions, si je ne dis pas de bêtises, qui vont être distribués entre le comité olympique et l'ANS, l'Agence nationale du sport. L'héritage, c'est toutes ces entreprises qui se sont engagées pendant les Jeux olympiques et paralympiques et qui continuent. Je donnerai un exemple, le groupe ADP que je représente. Cette semaine, j'ai encore accueilli une délégation de para-volleyeurs. Donc les Jeux sont terminés, mais on accueille les athlètes de haut niveau, les athlètes, les délégations. Lundi dernier, donc lundi, nous étions le lundi 16. C'était celui d'après, 23. J'ai accueilli l'équipe de la police nationale, l'équipe féminine, qui sont vice-championnes d'Europe de foot, et rentrée d'Allemagne. Voilà, donc c'est toujours un plaisir pour le groupe ADP d'accueillir des délégations olympiques ou paralympiques, non olympiques, et ces sportifs de niveau, ces dignitaires, ces délégations. Voilà, les jeux continuent, enfin les jeux sont arrêtés, pardon, mais l'accueil continue, l'hospitalité continue, et on fait en sorte que tous les passagers, qu'ils soient sportifs ou non, se sentent bien et accueillis dans les meilleures conditions.
Je vais rebondir parce qu'il y a aussi eu les championnats du monde militaire là, juste qui se sont déroulés cette semaine, donc vous avez été en quelque sorte le parrain, je crois. Donc peut-être un petit mot là-dessus pour conclure notre belle interview.
Je suis réserviste dans la marine depuis de nombreuses années et ces Jeux militaires ont été exceptionnels. On ramène une moisson de médailles avec plusieurs médailles d'or, une médaille d'argent et 3 médailles de bronze. C'est exceptionnel. Après ces belles médailles qu'on a décrochées l'été dernier pendant les Jeux olympiques de Paris 2020, olympiques et paralympiques de Paris 2024, on a une belle médaille d'or avec Altea, avec Cyriane Ravet et Zakia Koudadadi et Jelika Diallo. On est très très fiers, le taekwondo français se porte bien et on va continuer à faire la promotion de cette discipline, à faire en sorte que les sponsors s'y intéressent de plus en plus et que les médias puissent nous aider à valoriser cette belle discipline.
Merci beaucoup.
Merci à un fidèle de notre micro, donc Pascal Gentil. Il était tellement modeste, Pascal, que c'est 76 millions d'euros de bénéfices pour donc Paris 2024. Allez, on va écouter maintenant Steve Marley, le conseiller donc du président du Red Star. Steve Marley, toujours aussi heureux de venir participer à ce genre de match. Bon, Steve Marley, un match toujours aussi sympa hein, que ce match caritatif.
Oui, bah, c'est toujours un plaisir de pouvoir déjà jouer au football, même si c'est de plus en plus dur avec l'âge qui monte. Mais voilà, c'est toujours bien de pouvoir faire plaisir à des associations qui le méritent, de revoir des anciens, de se rendre utile tout simplement.
Vous en faites beaucoup de ce type de match?
Oui, le mois de mai. Moi j'aime bien parce que je dis le mois de mai, le mois de juin, c'est le mois des vieux. Donc je me prépare. C'est vrai que j'ai beaucoup de matchs de ce type-là. Et comme je suis aussi au CIF, c'est le comité des internationaux français, on a beaucoup de matchs de ce type-là, mais aussi pour d'autres associations. Je fais d'autres événements, mais le mois de juin est très très lourd en général de matchs.
Alors, comment on arrive à se remettre dans le coup?
Ben, moi, ça fait depuis le mois d'avril que je me prépare. Je cours tous les jours 6 à 7 km. Donc voilà, c'est une histoire de volonté. Alors, j'ai la chance d'avoir fait une carrière. Donc mon corps s'en rappelle encore un petit peu. Hein, j'ai cette chance-là. Donc voilà, je cours, je prends plaisir. Et ce qui fait que ben, aujourd'hui, sur un tel match, ben, j'arrive à ne pas me blesser. C'est déjà bien.
Ouais. Vous êtes sorti un tout petit peu avant, là, quand même. Hein.
Oui, j'ai fait une heure. On s'était mis d'accord. Je fais une heure. Et puis à un moment donné, il faut savoir écouter son corps. Et c'est un petit peu le privilège de l'âge, c'est qu'on écoute son corps. Donc ça, c'est bien.
Bon, Steve, vous êtes au Red Star. Comment va le Red Star? Comment ça va se passer?
Ben, on s'est maintenu l'année dernière. Oui. Donc en ça, l'objectif est rempli. Alors on a eu beaucoup de départs. On a eu 11 départs entre les fins de contrat et les joueurs de retour de prêt. Du coup, ben, on va recruter. Là, on vient de signer deux joueurs, Trani et Kawi, qui étaient à l'étranger pour les deux. Et donc, il y a encore d'autres joueurs qui vont arriver. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment de se maintenir le plus tôt possible pour éviter un peu tout stress. Donc, on est toujours dans cet objectif-là. Alors, avec aussi une petite différence, c'est que cette année, comme c'est notre deuxième saison en Ligue 2, on a ouvert le centre de formation, ce qui est pour nous une vraie évolution, puisque le centre de formation, on n'en avait pas les dernières années. C'était il y a plus de 30 ans. Donc, c'est une vraie avancée pour nous.
Oui. Ça a été une année merveilleuse pour le foot francilien, hein, avec deux clubs la saison prochaine donc en Ligue 1, le Resta en Ligue 2 et trois clubs franciliens en National.
Oui, et puis un club comme Créteil en N2 qui arrive avec des ambitions et des moyens. Donc effectivement, là, cette année, et puis bon, bien PSG qui gagne la Champions League. Donc voilà, si on démarre du haut vers le bas, le foot francilien se porte très très bien. Et c'est bien parce que tout le monde se pose la question pourquoi il n'y a pas beaucoup de clubs. Enfin, pourquoi il n'y avait qu'un club de Parisien en Ligue 1. Aujourd'hui, il y en a deux, et peut-être demain trois, et peut-être après-demain trois, quatre, cinq, comme à Londres ou comme dans les autres grandes capitales. Donc ça, c'est bien.
Oui, et ça montre tout le beau réservoir du foot francilien.
Oui, ça montre le réservoir, et puis surtout, ça va permettre à nos jeunes joueurs de rester sur la région parisienne, parce que on retrouve beaucoup de Parisiens à travers l'Europe. Parce qu'on n'a pas assez d'infrastructures. Donc aujourd'hui, avec les deux clubs en première division, nous en deuxième, et j'espère d'autres clubs qui arriveront, il y aura beaucoup plus d'infrastructures et de centres de formation pour garder nos jeunes parisiens.
D'accord. Et le Restart en Ligue 1 un jour?
Oui, ça c'est certain. C'est certain. Fabuleux. Ça, j'ai pas de doute.
Merci Steve. Merci. Voilà, toujours aussi sympa. Donc l'ex-international Steve Marley. Puis on va finir avec un ancien joueur aussi du Paris Saint-Germain, de l'époque Canal+, Samir Amiresh. Lui aussi, toujours aussi ravi de venir participer à ce genre de compétition. Bon, Samir Amiresh, comment vous avez vécu ce match? Très sympa encore. Hein.
Très bonne question, très sympa. Oui. Je suis venu pour mon ami Valdo, déjà, pour commencer. Et puis, le match est à l'image de celui de la semaine dernière. On s'est retrouvés entre potes. On ne se voit pas souvent. Et on a passé un très bon moment. Ça nous a fait plaisir de nous retrouver tous ensemble. Et puis on a passé une très bonne après-midi. Et en même temps aussi, ravi d'avoir fait votre connaissance aussi. Des gens très gentils. Et voilà, tout était positif aujourd'hui.
Oui. Des matchs comme ça, vous en faites souvent dans l'année?
On en fait souvent, mais plus en fin de saison. Mais il nous arrive quand même pendant l'année d'en faire. Tout ça pour des œuvres caritatives. On essaye de faire comme au mieux pour aider des associations. Voilà.
Oui. Alors vous, je crois que vous avez un match important la semaine prochaine, au mois de juillet. Début juillet, au niveau caritatif.
Nous avons un match important Oui, c'est on joue à Boulogne-Billancourt contre les anciens de la CBB. Ça va être un bon match puisque quand même eux ils s'entraînent régulièrement. Et puis ça sera aussi pour une association. Et cette fois-ci, nous allons avoir encore plus d'anciens pros qui vont jouer dans notre équipe. Parce que nous avons déjà fait le nécessaire pour contacter un peu beaucoup du monde. Pour qu'il y ait plus de monde et qu'il y ait un beau match. Voilà.
Donc on note bien la date, 6 juillet.
Dimanche 6 juillet à Boulogne-Billancourt.
Sur ce match, vous avez joué en première partie, vous avez été coach en deuxième partie. Quel conseil vous avez donné? Comment vous avez géré cette deuxième partie, justement?
D'accord, oui, en première mi-temps, j'ai joué. Et j'ai voulu faire participer tout le monde. Donc je me suis permis de sortir et sortir quelques joueurs pour faire jouer ceux qui n'ont pas joué. Et puis coach, j'ai déjà été coach. Et puis Valdo me fait confiance pour la gestion du turnover par rapport au temps de jeu des uns et des autres. Donc on essaie de donner du temps de jeu à tout le monde, au moins 45 minutes, une heure chacun. Voilà.
Bon, pour finir, vos activités actuelles dans le foot, c'est quoi?
Mais moi, j'ai une académie des enfants de 6 à 18 ans. Nous sommes beaucoup, beaucoup. Donc j'en organise beaucoup pendant chaque vacances scolaires. Et puis ça vient vite parce que le temps d'organiser les vacances scolaires, c'est tous les un mois et demi. Et là, on doit préparer juillet, août, et là, Toussaint, et Noël, et février, avril, c'est toute l'année. Et puis aussi, de temps en temps, je vais voir des anciens amis qui sont en poste dans des clubs pro de Ligue 1. Ils m'invitent pour échanger. Mais il est possible qu'un jour, je reprenne dans un club pro pour être dans la cellule de recrutement ou conseiller.
Alors, la même question qu'à Steve Marley, on a quand même une chance énorme sur ce réseau francilien. 6 clubs la saison prochaine au niveau. 2 en Ligue 1, 1 en Ligue 2 et 3 en National. Et puis, plus Créteil.
Alors, en toute objectivité, c'est un peu dur ce que je vais dire. Il y a PSG qui est en Ligue 1 et le PFC qui vient de monter. Restart qui est en Ligue 2. Versailles, il me semble qu'il reste en National. Et Fleury qui monte en National. Sur ce, on essaie d'y arriver petit à petit, mais comparé en Angleterre, ils ont toujours entre 7 et 8 clubs en Ligue 1 à Londres et depuis tout le temps. Et pour eux, c'est normal. La capitale, à Madrid, il y a beaucoup de clubs. Il y a Atlético, le Real et d'autres qui sont proches de Madrid. À Barcelone, pareil. En Italie, l'Inter, le Milan et d'autres qui sont à côté, la Roma. Et nous... je pense qu'on se développe un peu plus tard que les autres. Voilà.
Merci en tout cas.
Pas de problème, merci.
Immense merci donc à Samir Amirach. Et puis c'était une journée bien, bien sympa. On a déjà hâte de les retrouver en 2026. Alexandre, donc un petit point sur le foot, hein, parce que toi, tu nous as donné des infos sportives. Coupe du monde des clubs, on en est où?
Alors, on en est déjà
t'en as un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais.
On est entre 8e et quart de finale actuellement. Donc, on connaît les résultats de Paris qui a gagné contre l'Inter Miami 4-0, qui affrontera donc le Bayern en quart de finale, qui ont gagné 4-2 contre Flamengo. Chelsea a gagné contre Benfica 4-1 et affrontera donc Palmeiras qui a battu son compatriote brésilien Botafogo 1-0. Et sinon, donc, ce soir à 21h, on a l'Inter contre Fluminense qui affrontera le vainqueur entre Manchester City et Al Hilal en quart de finale. Et enfin, le Real Madrid contre la Juventus qui affronteront, le vainqueur affrontera Dortmund contre Monterrey. Voilà.
D'accord. Un petit mot sur la Tufoot, aussi la crise à Lyon. Lyon en Ligue 2 et qui a changé de président. C'est une présidente donc,
il a démissionné.
Qui a été choisie ce matin. Bah, ça me paraissait la moindre des choses.
Il a démissionné, il a dit qu'il allait plus se concentrer sur Botafogo maintenant. Mais après ce qui s'est passé, après il y a toujours la procédure d'appel qui va se dérouler.
Oui, mais il va falloir renflouer,
renflouer les caisses parce que il faut de l'argent et sinon voilà, l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 ce serait quand même un drame de notre football.
Comme ça il y aura un derby Saint-Étienne de Lyon.
Mais ce serait vraiment le derby de la honte quoi. Le derby de la honte après Bordeaux, après Saint-Étienne, maintenant ce serait Lyon.
Et malheureusement c'est peut-être pas fini. Ouais.
Et sinon en complément on parle aussi de pour les amateurs de foot d'une chaîne de la LFP.
Oui.
Le prix serait à peu près de 14,99€.
Bah, j'espère donc, qu'il va être bénéficiaire parce que c'était le même prix pour la chaîne précédente. Et
c'était à peu près le même. C'est un petit peu moins cher. Et il y aurait 8 matchs sur 9. Et le 9e match, donc c'est toujours Beansport qui a les droits pendant un an. Mm-hmm. Et sinon, voilà, donc ce serait à peu près 14,99€ pour les amateurs de foot.
Très bien. Merci Alexandre de nous avoir complété ce point foot. On va remercier notre ami Stéphane qui est intervenu pendant toute la saison, qui avait fait son dernier point foot il y a 15 jours. On l'avait retrouvé pour le quotidien du sport et maintenant Stéphane, on va retrouver sur un nouveau site 4-3-3, ça veut tout dire, avec des grandes plumes et des grands noms donc, du journalisme sportif et surtout du journalisme de foot donc, qui vont écrire là-dessus. Donc longue vie à notre ami Stéphane Desenclos pour le 4-3-3. Voilà.
Longue vie à lui.
Ouais. Allez, on va finir avec le ski nautique. Les écoles viennent vous voir, ouais. Viennent s'initier.
Ouais, ouais, beaucoup, oui. Beaucoup. C'est bah, avec les températures, c'est en vogue. Pas que les écoles aussi. On a beaucoup de. On parlait de sport adapté. J'entendais oui, Pascal oui, Gentil oui, là, tout à l'heure qu'on parlait.
C'est important.
Nous, on est très ouverts justement à ce genre de pratique, alors que ce soit des handicaps. Moteur ou physique, on est.
Même handicapé, on peut faire du ski. Alors, même sur une jambe, sur un.
Jérôme a vu, lors d'une compétition, a vu un skieur de haut niveau hein, skier sur une jambe, mm-hmm. sur une seule jambe. Hyper impressionnant, comme tous les sportifs de haut niveau, déjà de base, et puis quand on voit leur handicap et ce qu'ils ont traversé, en arriver là, la quantité de travail, elle est. Elle est immense.
Oui, énorme. Et alors, vous faites aussi... Alors, c'est peut-être pas l'hiver, mais l'hiver, vous ne fonctionnez pas. Ça pose un problème, ça.
Non, ça ne nous pose pas de problème, on se repose.
Oui, non, mais l'entretien du matériel, comment ça se passe?
Donc, l'hiver, effectivement, on sort nos bateaux, on les entretient. Au-delà des entretiens qu'on fait là tous les week-ends, et parce que les bateaux sont très sollicités. Donc on les entretient, on les répare, on rachète du matériel, on se sépare de vieux matériel. Et puis nous, quand je disais on se repose, c'était qu'à demi-mot, c'est pas notre métier. Nous, on est tous bénévoles dans l'association, mmh. et on fait ça en plus de notre emploi respectif. Donc, on passe un petit peu de temps avec nos familles et puis vraiment, on se repose parce que là, les week-ends, ils sont... je te laisse imaginer que les week-ends, ils sont très chargés en ce moment. Là, on regardait le planning encore là, pendant les interviews. Demain, c'est la folie avec la canicule.
C'est très bien. En tout cas, merci d'être venu.
Hein. Avec plaisir.
Ça a été un plaisir. Et puis, revenez quand vous voulez. Puis avec Patrice Martin et puis Vanessa, elle ira faire un petit reportage. Hein.
Ça marche, merci. On lui passera le mot.
Voilà, merci à nos amis sapeurs-pompiers. À très bientôt. Hein.
Merci à vous.
Vous aussi, n'hésitez pas. Dès qu'il y a des belles performances de sapeurs-pompiers, aucun problème. D'accord ?
Merci.
Puis vous êtes en voisin. Hein.
Oui.
Voilà.
Merci
puis,
beaucoup.
Voilà, puis c'était la dernière pour la saison. On va prendre nos quartiers d'été. Donc, moi, je voudrais remercier tous les très nombreux invités qu'on a eus cette année sur notre plateau. Remercier aussi tous ceux qu'on a interviewés, y compris ceux qu'on a eus par téléphone. Et remercier aussi nos amis Jason et puis Léo pour leur travail monumental sur l'ensemble de la saison. Ils ont parfois même fait des miracles. Merci à eux. Merci en tout cas pour votre immense fidélité. Toutes ces émissions, vous pourrez les réécouter pendant tout l'été en podcast. Vous resterez avec nous. Bonnes vacances, Alexandre.
Bonnes vacances à toi, Philippe. Ouais, t'as besoin de repos, là.
Il y aura tout plein de belles choses. Hein. Toi, t'as besoin de repos, nous, jamais. Voilà. Bonjour, Vanessa.
Merci. Voilà. Bonnes vacances. Voilà. Et puis, merci, Philippe, aussi, pour toutes ces émissions tout au long de l'année.
C'est un plaisir. Allez, on finit avec la dernière musique. C'est les vacances. Au bout du foot, je crois, dans quelques minutes.
C'est ça.
La déroutine de la saison. Belle soirée à tous et à tous. Merci pour votre immense fidélité tout au long de la saison. Et on se retrouve en septembre. Bel été. Bye bye.
T'as détruit ma vie, détruit ma vie, ma vie. Est-ce que t'y penses? Qu'est-ce que ça te fait de m'avoir pris jusqu'au dernier morceau du cœur que t'as détruit? Triste vie, je me suis. J'ai tapé dans le mille, mais j'ai préféré me dire que c'était qu'un film. Je peux plus dormir quand je t'imagine avec ce fils de toute nu dans mon lit. J'essaie d'être le plus calme et serein possible. Sur la vie.
FAM.